Midi 1. Mariam, matin famille.
Allez, nous sommes toujours ensemble et en direct sur les ondes de Medi1, sur Medi1.com également. Je l'annonçais en début d'émission, ce matin on essaye ensemble de comprendre l'amnésie traumatique. C'est quand le souvenir est enfoui dans le cerveau, il est alors inaccessible et ce suite à une dissociation qui surviendrait lors d'un traumatisme. Alors pour essayer d'y voir plus clair, avec nous aujourd'hui et comme tous les jeudis matins, docteur Othmane Lorabi qu'on ne présente plus. Bonjour docteur.
Bonjour Mariam, ravi d'être avec vous et bonjour aux auditrices et auditeurs.
Et c'est un bonheur de vous avoir comme toutes les semaines. Vous êtes spécialiste en psychiatrie, je le rappelle quand même. Vous êtes secrétaire général de l'association marocaine de psychiatrie psychodynamique. Alors cette amnésie traumatique dont on parle finalement assez rarement, docteur Lorabi, comment peut-on la définir et est-ce qu'il en existe plusieurs formes ?
Alors, il y a trois notions importantes, donc l'amnésie, le traumatisme et vous avez dit le mot dissociation. Oui. Alors, l'amnésie, je pense que tout le monde sait ce que c'est la perte d'informations au niveau de notre mémoire. Il y a plusieurs types d'amnésie, ça peut être sélectif, ça peut être global, c'est-à-dire on va oublier notre identité, absolument toutes les informations qu'on a emmagasinées auparavant. Quand on parle de traumatisme, alors, et là, la notion de psychotraumatisme est au centre de la discussion, c'est toute situation vécue avec une détresse psychologique où on craint pour notre intégrité physique et pour notre survie, que ce soit pour nous ou pour des gens, les gens qu'on aime ou les gens qui arrivent quelquefois devant nous, etc. Donc on peut être juste spectateur d'une scène justement traumatisante et répondre authentiquement à la définition de psychotraumatisme. Enfin, la dissociation, qu'est-ce que la dissociation ? Oui. En fait, c'est une modification de la conscience. Il faut un peu le définir comme ça. C'est un rétrécissement du champ de la conscience et en des termes un peu plus simples, c'est un peu comme si notre cerveau, notre psychisme cessait d'emmagasiner les informations et cessait d'interagir avec l'environnement. D'accord ? C'est un peu, pour donner l'image par exemple d'un état dissociatif, et ben ce serait quand on est sidéré. Et justement, notamment, quand on parle de traumatisme, il y a souvent l'image de la sidération péritraumatique, c'est-à-dire les personnes qui sont figées, qui ne répondent pas, qui ne parlent pas, qui n'interagissent pas avec leur environnement. Donc, c'est un exemple d'état dissociatif. Et cette amnésie dissociative dont on parle, enfin, cette amnésie traumatique, donc c'est la même terminologie qu'on dise amnésie traumatique ou dissociative, c'est finalement une perte de mémoire qui va être associée à une expérience traumatisante. Quand je dis expérience traumatisante, alors quand on parle d'amnésie, c'est vrai que c'est pas quelque chose de très fréquent en population générale, mais dans certaines circonstances, ça devient plus fréquent, notamment par exemple dans les populations qui sont en temps de guerre, l'accidentologie routière, dans les accidents domestiques type incendie, ce genre de choses, mais aussi malheureusement en cas de violence sexuelle. Donc il y a une grande variété, je dirais, de situations traumatisantes qui peuvent se manifester par cette amnésie, justement, qui peuvent s'accompagner de cette amnésie traumatique.
D'accord. Et ça peut arriver à n'importe quel âge, docteur Lorabi ?
Oui, ça peut arriver à n'importe quel âge, absolument. Il semble, mais il n'y a pas de chiffre, il semble que aussi chez les enfants, c'est assez marqué.
Oui.
Hein, c'est assez marqué vous le disiez, enfin, quand on parle de de retour hein, du fameux souvenir, c'est-à-dire que on va parler de quelque chose qui a été tellement traumatisant que on l'a refoulé pendant toutes les années où voilà, on était en train de se construire, de grandir, de se développer, et puis à l'occasion d'événements X, Y ou Z pendant la vie adulte, mais assez souvent lors de d'autres traumatismes, on peut avoir un retour justement de ces souvenirs enfouis. Et c'est là où il va y avoir de la souffrance, parce que ce retour, absolument, il se fait d'une manière anarchique, manière non contrôlée, d'une manière fragmentée. Et donc les gens vont décrire des symptômes comme des flashbacks.
Des
flashbacks. Et qu'est-ce que le flashback ? C'est le fait de revivre des instants du traumatisme avec toutes les sensations qui l'accompagnent, et avec toute la détresse et la souffrance qui l'accompagnent. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose d'éminemment douloureux. Et il y a aussi, bien sûr, le retour sous forme de cauchemars, assez souvent stéréotypés et répétitifs. Et c'est justement ce retour-là du traumatisme qui est à l'origine d'une amnésie va plutôt constituer un état de stress post-traumatique comme on peut l'imaginer, avec une très grande souffrance, les symptômes dont on a parlé en plus, et puis quelquefois même des modifications de la personnalité, où la personne elle est de plus en plus changée après le retour justement du souvenir biographique traumatisant.
D'accord. Alors, on a une petite question d'une auditrice, une fidèle auditrice qui est fidèle à ce rendez-vous. Alors, elle, si vous le voulez bien, docteur Lorabi, bien sûr, elle se demande, en fait, son fils a perdu son papa donc à l'âge de 6 ans et n'a aucun souvenir. Aujourd'hui, il en a 12, il n'a aucun souvenir de des moments passés avec son papa. Elle se demande si c'est normal qu'à 6 ans, on n'ait aucun souvenir, c'est-à-dire les 6 premières années de la vie.
En tout cas, est-ce qu'il n'y a aucun souvenir? Il n'y a aucun souvenir qui se manifeste.
Oui, justement, est-ce qu'on peut parler d'amnésie traumatique? Est-ce que c'est possible que ce soit le cas?
C'est possible, parce que effectivement, la perte d'un parent quand on est enfant, c'est quelque chose qui est assimilé comme un traumatisme. C'est pas le plus fréquent. C'est pas le plus fréquent. Après, on peut avoir des petites amnésies lacunaires, c'est-à-dire extrêmement sélectives concernant une personne ou ce genre de choses dans une période de deuil. Chez les jeunes enfants, c'est pas quelque chose de péjoratif.
D'accord.
Il faut être rassuré. Et de toutes les façons, par rapport à ce genre d'interrogation, c'est vraiment le développement par la suite et l'apparition par la suite ou pas d'éléments traumatisants. Et puis, ce qui me paraît important aussi pour cette auditrice, c'est de se poser la question de est-ce que l'enfant a été vraiment dans le traumatisme du décès de son papa, c'est-à-dire est-ce qu'il était présent, est-ce qu'il a vécu la détresse donc psychologique du moment, mais tout en sachant qu'à 6 ans, en général, c'est un peu précoce pour appréhender réellement ce que c'est la mort.
D'accord. Très bien. Alors, en termes de thérapie, j'allais dire, comment ça se passe, docteur, et à quel stade, finalement ?
En fait, dès qu'on identifie qu'on a été victime d'un traumatisme, mais qu'il y a une amnésie, ça c'est souvent quand on a été victime d'un traumatisme avec des témoins dans notre entourage qui vont nous rapporter les faits mais dont on ne se souvient pas. À ce moment-là, oui, on peut aller consulter. Il y a des techniques de psychothérapie qui vont permettre un petit peu d'intégrer le souvenir traumatique, de l'intégrer correctement au niveau de la mémoire et au niveau de la conscience. Ça peut passer par des thérapies classiques comme une psychanalyse, comme ça peut passer par des thérapies un peu plus, je dirais, récentes, comme le MDR, qui est une thérapie qui est basée sur les mouvements oculaires pour un peu globalement restimuler la mémoire.
Hein,
donc ce sont des séances comme ça. Et sinon, quand il y a méconnaissance du traumatisme, mais qu'il y a l'apparition de ce qu'on disait, les cauchemars, les flashbacks, voilà, les états anxieux, le fait de d'être tout le temps en train de sursauter, d'être tout le temps anxieux, ce qu'on appelle l'hyperarousal, etc. Ça, ce sont des choses qu'il faut, où il faut absolument consulter d'abord un médecin, un psychiatre, pour apprécier, je dirais, la gravité de la chose, parce que quand c'est grave, ça peut mener à des choses assez dramatiques, des dépressions, des crises suicidaires, ce genre de choses. Donc, d'abord, essayer de parer au plus urgent médicalement parlant. Mais là, encore une fois, ce sera la thérapie qui va être le véritable outil pour permettre d'intégrer ce traumatisme et de pouvoir se construire malgré sa présence.
Alors justement, récupérer ses souvenirs, alors vous l'avez dit, hein, ça peut arriver de façon anarchique, donc vous l'avez dit.
Oui.
Est-ce que c'est bon finalement de récupérer ses souvenirs ?
Alors, les flashbacks ne sont pas des souvenirs, parce que justement un souvenir... Oui. On va pas avoir la détresse du moment et on va pas avoir les sensations du moment quand on se souvient de quelque chose. En tout cas, il faut qu'on fasse un effort pour essayer de se souvenir des sensations. Tandis que pendant les flashbacks, c'est quelque chose qui s'impose à nous avec une extrême violence. J'insiste là-dessus, ce ne sont pas des petits souvenirs qui reviennent, mais réellement comme si tout à coup j'étais dans l'endroit et dans la situation que j'ai vécu. Avec tout ce que ça implique. Alors, vous imaginez bien que, en termes de vie quotidienne, en termes d'activité de tous les jours, que ce soit le travail, la vie de famille, etc., c'est hautement handicapant. Et puis, ça va probablement aussi, ça se complique souvent d'états dépressifs, je le disais, de troubles addictifs, parce qu'on cherche n'importe quoi pour essayer d'empêcher tout ça. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que je me permets de réinsister, une évaluation médicale quand on est face à une suspicion de syndrome de stress post-traumatique est absolument nécessaire.
Donc, si on a bien compris, le cerveau n'en fait qu'à sa tête, finalement.
Le cerveau et notre psyché fait tout pour essayer de nous défendre contre ce qui nous paraît impensable.
D'accord.
C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Mais voilà, c'est un mécanisme de défense. Et puis, par la suite, voilà, ces défenses vont tomber. Et puis, il faudra travailler sur l'intégration du souvenir, enfin l'intégration plutôt de l'événement dans le souvenir et dans la mémoire.
Alors, vos conseils à toutes ces personnes qui se reconnaîtront, avant de nous quitter, docteur Laura Biche, je rappelle que vous êtes spécialiste en psychiatrie à Casablanca. Quels seraient ces conseils, justement, et on les prend ce matin, à toutes ces personnes?
Alors, mon conseil, c'est si on est en souffrance, et c'est ça en fait pour moi la limite justement concernant les histoires de traumatisme. Si on n'est pas en souffrance, si on n'identifie pas de souffrance, et puis si on n'est pas alerté par notre entourage, moi je pense que pousser à la consultation peut être contre-productif, hein, parce que quelquefois on peut fixer un traumatisme qui n'allait pas l'être, entre guillemets. Mais à partir du moment où il y a une souffrance qui est reconnue par l'individu, par la personne, et puis qu'elle se pose des questions, parce que le problème c'est qu'assez souvent, on peut se dire que ce sont des hallucinations ou des rêves, c'est-à-dire il peut y avoir des erreurs diagnostiques.
D'accord.
Il faut pas hésiter justement à consulter, ça c'est important, surtout quand il y a de la souffrance, pour poser les choses, décider d'une prise en charge, et puis pour qu'il puisse y avoir un accompagnement dans de bonnes conditions de sécurité et dans des conditions, je dirais, de santé mentale optimum.
Docteur Atmane Lorabi, vous êtes spécialiste en psychiatrie. Vous êtes également secrétaire général de l'association marocaine de psychiatrie psychodynamique à Casablanca. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin sur Médien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore. C'est un entretien réécoutable sur notre site médien.com comme tous les autres. À la demande.